Et aujourd'hui, nous recevons une invitée dont le parcours illustre parfaitement l'engagement envers l'éducation. Il s'agit de la docteure Alice Prophète. Docteure Alice Prophète est professeure et chercheure à l'Université de l'Alberta. Avant d'accéder au milieu universitaire, elle a consacré plus de 17 années à l'enseignement dans les écoles albertaines où elle s'est distinguée par son engagement envers la réussite de tous les élèves. Et récemment, son engagement a été reconnu par la National Black Coalition of Canada à Edmonton, qui lui a remis un prix prestigieux portant le nom de Rosalind Smith, une figure historique de l'éducation en Alberta et première femme noire à devenir directrice d'école dans la province. Par ailleurs, Dr. Prophète continue de contribuer activement à la promotion de la langue française, notamment en rédigeant une dictée originale pour la grande finale des entreprises de la dictée PGL de la francophonie, une initiative qui célèbre la richesse linguistique et culturelle du monde francophone. C'est donc avec un grand plaisir que nous l'accueillons aujourd'hui pour parler de ses activités, de ses reconnaissances récentes et de sa vision de l'éducation inclusive. Donc, bonjour Dr. Prophète.
Bonjour le Kenslib et bonjour aux auditeurs de Radio Cité.
Ok. Donc, Dr. Prophète, recevoir un prix est toujours une reconnaissance importante, mais recevoir un prix qui porte le nom d'une pionnière comme Rosalind Smith a certainement une signification particulière. Qu'est-ce que cette reconnaissance représente pour vous personnellement, mais aussi pour votre mission en éducation et votre engagement envers l'équité et la représentation?
Oui, merci pour la question. Et je dois dire que j'ai été très, très émue lorsque j'ai reçu cette note qui me disait que j'étais non seulement nominée et puis sélectionnée pour ce prix. Mm-hmm. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mériter un tel prix, franchement, c'est gagner à la loterie. Honnêtement, ben, c'est pas une valeur monétaire, mais c'est quand même participer d'un héritage certain, parce que Rosalind, voyez-vous, c'est une femme extraordinaire. C'était, elle a enseigné pendant 18 ans même, avant de devenir devenir directrice d'école en Alberta. Et c'était la première femme noire. Et vous savez que c'était pas si facile que ça. Et je n'ai pas même besoin de mentionner toute la discrimination, la microagression. Et en fait, comme vous le savez, c'est systémique. Lorsque une minorité visible atteint ce niveau de leadership, franchement, c'est pas donné. Alors, cette femme a fait son chemin, elle a inspiré, elle a travaillé fort, et quand même, c'est une question de représentativité. Elle a représenté toute une nation, toute une, je ne sais pas, peut-être que c'est pas une nation, toute une communauté, pour moi-même, et d'ailleurs, a fait Rosalind, quand même, qui a transitionné, et je crois que recevoir ce prix, pour moi, c'est un grand honneur et un honneur très profond. C'est ça, et encore, je tremble de bonheur et je tremble aussi de surprise. Voilà.
Mais c'est ça, notamment, c'est une reconnaissance vraiment qui met en exergue, on peut dire, votre parcours auprès de 17 ans dans l'enseignement albertain. Mais revenons un peu sur ce parcours. Vous avez travaillé pendant plusieurs années dans les écoles avant de devenir professeur à l'université et chercheur. Mais comment ces années passées directement dans les salles de classe ont-elles influencé votre vision actuelle de l'éducation?
Mais moi, j'ai toujours été une éducatrice passionnée. Écoutez, j'ai enseigné avant même d'immigrer ici au Canada. Je rappelle, pour toi, je peux te tutoyer, n'est-ce pas?
Je te
rappelle que je suis haïtienne. Je suis canadienne d'origine haïtienne. J'ai fait l'école normale supérieure. J'ai enseigné pendant des années avant d'immigrer au Canada. Donc, j'ai continué à enseigner. C'est ma vie. Je ne sais Je ne sais. En tout cas, c'est la seule chose que je peux faire mieux, enseigner. Et c'est tout un parcours. Hein. J'ai étudié, j'ai obtenu le niveau le plus élevé. Comment est-ce qu'on peut dire, le dernier diplôme qu'on peut avoir, et ceci en éducation. Donc, enseigner, c'est ma vie. Enseigner, c'est ma passion. Et je trouve toujours de l'occasion pour enseigner. Alors, lorsque je dis enseigner, c'est moi, c'est ma vie. À un certain point, j'ai fait mes maîtrises, j'ai deux maîtrises et aussi un doctorat. Okay. Et là, je suis restée dans les écoles pendant des années, que ce soit en élémentaire ou au secondaire, et enseigner tout le curriculum. À un certain point, je me suis dit, écoutez, Alice, tu as de grands ailes, et ces grands ailes fermées dans un cage, j'avais envie de voler davantage. Alors, j'ai transitionné vers l'université. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à Rosaline. Si on parle de Rosaline, notre parcours se ressemble dans une certaine mesure. Hein, parce qu'elle a fait 17 ans avant, 18 ans, pardon, avant de briguer quand même l'administration, de passer à un stade, en tout cas, devenir un leader éducationnel. Et moi, j'ai travaillé dans les salles de classe. Ben, c'est toujours l'enseignement, et je suis allée au niveau supérieur. Donc, en tout cas, j'ai des compétences et des, comment dire en anglais, credentials pour ça. Donc, je suis au niveau de l'éducation. Au Campus Saint-Jean, je continue à enseigner et je fais la recherche aussi. Oui.
Mais enseigner, c'est également l'occasion de parler d'inclusion. Et concrètement, selon vous, quelle action les écoles et les enseignants devraient-ils prioriser pour favoriser une véritable inclusion des élèves?
Ça, c'est une question assez intéressante. Je ne sais pas si je peux répondre, mais quand même, je le dis, d'ailleurs, c'est ma recherche aussi, la pédagogie inclusive, comment inclure. Et écoutez, l'inclusion, la véritable inclusion, en fait, consiste à reconnaître, valoriser, soutenir la diversité de tous les élèves. La diversité diversifiée, c'est redondant ce que je dis, parce qu'il y a toutes sortes de diversités. Des diversités qui sont invisibilisées. Il y a toutes sortes, la diversité ethnoculturelle, la diversité religieuse, la diversité de genre et tout. Souvent, on voit la diversité des personnes noires, de minorités visibles, n'est-ce pas? Ou bien qu'on porte un voile, on voit ça, mais il y a la diversité religieuse, il y a la diversité de genre qui sont invisibilisés. Donc, la véritable inclusion, pour moi, c'est reconnaître et valoriser et soutenir cette diversité pour que chacun puisse participer pleinement et apprendre pour que tout le monde se sente légitime à l'école. Et moi, comme tu dis, Le Kensley, ce n'est pas à l'élève de s'adapter au système, c'est le système qui s'adapte à l'élève. Sûr. C'est l'enseignant qui doit se former, apprendre comment valoriser cette diversité. Justement, par rapport à ma recherche, par rapport à ce que je fais, je viens de développer un modèle, justement, un modèle qui montre comment la littérature, par exemple, peut servir de tiers médiateur, comme un bouclier pour pouvoir enseigner la diversité dans les écoles, pour avoir des conversations difficiles et aussi pour inclure ces élèves. Donc, un personnage, une métaphore, n'importe quoi peut servir de bouclier. Dans ce sens, on ne met pas l'enfant sur la sellette, et l'enfant peut se retrouver à travers le personnage. Donc, c'est le miroir. C'est le miroir. Voyez-vous, donc c'est ça. Et l'inclusion, c'est vraiment reconnaître, valoriser, soutenir, et aussi, en tant qu'enseignant, adapter. Et pour les élèves, en tant qu'enseignant, sur le plan pédagogique, bon, c'est mon affaire, hein. Il faut différencier l'apprentissage, il faut multiplier les approches, n'est-ce pas? Évaluer de manière équitable, collaborer aussi avec les familles, les communautés en tant qu'enseignant, et aussi se former continuellement comme enseignant pour être capable, pour savoir plutôt comment valoriser, comment soutenir cette diversité.
Contribuer également à son épanouissement.
Exactement, son épanouissement à tous les niveaux, intellectuel et social aussi.
Mais c'est oui. 17 années d'expérience, 17 années, on peut dire, d'enseignement, mais pas seulement l'enseignement. Vous portez également plusieurs chapeaux. Vous contribuez dans la communauté franco-albertaine. Vous êtes présidente du conseil d'administration de la FRAP, mais également fondatrice de EDICA, oui. qui est un organisme ici qui fait beaucoup d'activités, beaucoup de travaux, on peut dire, dans la communauté franco-albertaine, mais aussi auprès des francophiles. Mais cet engagement, il vient d'être couronné récemment et de par votre participation à la dictée PGL, cela montre votre engagement envers cette langue, la langue française. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans la rédaction de cette dictée? Parlez-nous un peu de cette aventure.
Oui, tu as dit beaucoup de choses. Mm-hmm. C'est ma francophonie même qui est engageante et okay. il y a un espace c'est pas approprié, comment est-ce que je peux dire ça, un espace qui me permet de vivre ceci. Okay. Donc, vivre dans des communautés francophones au Québec nous permet aussi de nous engager davantage et de vivre une vie épanouie, si tu permets, et parce que l'environnement aussi nous permet d'utiliser nos talents, n'est-ce pas? Il faut que je reconnaisse cela. Alors, le fait que ma francophonie est un engagement et ça me permet de prendre des initiatives innovantes, mm-hmm. comme par exemple EDICA que j'ai fondé depuis en 2022 pour accompagner les jeunes, des femmes et puis pour au niveau de mm-hmm. leadership, de la pensée critique, de la littérature, etc. C'est vrai, je travaille au niveau je dois dire comme présidente de la FRAP, c'est au niveau de la gouvernance quand même. Encore, ça participe de mon engagement comme francophone qui œuvre, si tu veux, pour cette vitalité francophone. Okay. Quand tu parles de cette dictée, justement, en tant qu'autrice, tu sais que je suis aussi autrice, j'ai écrit plusieurs livres, mais il y en a deux depuis 2022 ou 2023 qui sont publiés. Et ce sont des livres, en fait, qui parlent de la réalité. Et ces livres, ces thématiques que j'ai traitées dans mes livres participent de ma recherche quand même. C'est de la recherche à la création littéraire. Je parle de certains enjeux. J'aborde des enjeux d'équité, des enjeux de la diversité, des enjeux d'inclusion, à l'immigration, tout ça. Et ces livres, ces thèmes font écho. Les gens lisent beaucoup au niveau des activités de clubs de lecture, des matinées littéraires que je donne, les gens lisent ces livres et certaines se voient, se reconnaissent. C'est pour ça que je tiens toujours à dire, ceux qui se reconnaissent, c'est quand même ils ont une conscience. Et c'est par rapport à ça que j'ai été reconnue comme quatrième auteur ou autrice en Alberta. Et c'est là que le Centre de la francophonie des Amériques, qui a ce livre et qui reconnaît ces enjeux traités dans ce livre et aussi grâce aussi au centenaire de la francophonie en Alberta. Mon livre qui a fait écho, j'ai été reconnue comme autrice et aussi j'ai été sollicitée pour rédiger la dictée de GPL. La dictée GPL, c'est la dictée de Paul Gérin Lajoie. Et c'est une dictée qui se donne pour les entreprises depuis 5 ans. Et j'ai été élue, si tu veux, pour rédiger cette dictée. C'est extraordinaire, je dois te dire. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire en rédigeant cette dictée parce que j'ai compris que rédiger une dictée n'a jamais été facile alors que j'ai enseigné toute ma vie. Tu viens de dire que j'ai 17 ans, j'ai plus que une trentaine d'années. Les gens vont deviner mon âge. Et si tu permets que je termine, j'ai plus qu'une trentaine d'années comme éducatrice, comme enseignante même dans la salle de classe et maintenant à l'université. Maintenant, 17 ans au Canada seulement, en Alberta. J'ai enseigné en Haïti pendant plusieurs années et j'ai enseigné une année en Amérique centrale. Montréal. Okay. Et j'ai fait des stages aussi, 3 mois en Europe. Et j'ai enseigné partout, si tu veux. Donc, okay, 17 ans ici au Canada.
Voilà, très bien. Une dernière question pour conclure. Je pense que votre parcours peut certainement inspirer plusieurs jeunes, hein, particulièrement ceux issus de l'immigration, ou du moins des jeunes francophones ici en Alberta. Quels conseils pouvez-vous les donner s'ils souhaitent suivre une carrière, que ce soit en éducation, en recherche, ou du moins à se faire un nom dans cette communauté?
Ouais, je dis ça toujours. Il faut que les jeunes, il faut croire en soi, travailler avec persévérance, accepter que les défis, en tout cas, fassent partie du chemin, beaucoup de défis, surtout des jeunes noirs, et puis ne les personne leur dire qu'ils ne valent rien. Et vois-tu, surtout comme immigrant, professeur, chercheur, autrice, fondatrice, etc., j'espère montrer aux jeunes qu'ils peuvent eux aussi occuper des espaces de leadership, créer des projets, contribuer à leur communauté, surtout aller à l'école. Aller à l'école. Peuvent devenir ce qu'ils veulent.
Ouais, c'est fondamental. Qu'ils veulent. D'accord, mille merci. Je vous félicite encore pour votre prix. Donc, c'est un plaisir de vous avoir avec nous sur Radio Cité.
Très bien. Merci beaucoup, Luc Hensley. Et bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutaient.
Ici Luc Hensley-Luma, CFED Radio Cité pour l'IGL.